France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Pardon, darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous connaissez Georges Cholet ? Mais si, l'auteur de Fantômette. Dans le 29e épisode de cette série enfantine, un cambrioleur nommé Le Furet fait irruption dans la galerie Apollon du Louvre pour s'emparer des joyaux de la couronne. Écoutez, il suffit de poser une échelle contre le mur, de grimper au premier étage, ensuite on casse le carreau, on fait 10 mètres, on brise la vitrine d'un coup de marteau et hop, on a la main sur l'objet. Fin de citation. C'était en 1961, et l'année suivante ouvrait, toujours au Louvre, la grande exposition consacrée à Milan de joaillerie française. Alors, plutôt que de tirer des conclusions définitives sur la ruine de la France, si on allait voir ces diadèmes, broches, colliers et couronnes des reines Marie-Amélie et Hortense, des impératrices Marie-Louise et Eugénie, allez voir pour comprendre ce qui a vraiment été dérobé lors de ce cambriolage retentissant du 19 octobre dernier. D'abord on décrit, ensuite on interprète. Tel est l'esprit de cette émission, car en regardant vraiment les objets, en comprenant leur histoire et leurs usages, on n'est plus dupe de ce que l'on veut leur faire dire. Bijoux et couronnes, joyaux et trésors, régalia et œuvres d'art, tentons de mettre un peu d'ordre dans le tumulte des catégories et des interprétations avec Sophie German, Thomas Guisdael et Yann Potin, bientôt rejoint par un sociétaire, mais on me dit qu'il est coincé dans le métro, on va voir s'il arrive à temps. Et ne croyez pas que l'on ne parlera pas de la France, car il en va évidemment de l'histoire de notre rapport exalté ou embarrassé à notre passé monarchique. Et puis la France, après tout, c'est aussi Fantômette et Arsène Lupin.
Et vous, vous avez besoin de quelqu'un qui connaît le musée?
Là va avoir lieu les enchères. On va faire gaffe, là-bas il y a des caméras partout. Il n'y a qu'un seul endroit où il n'y a pas de caméra, c'est là. Le vestiaire des agents d'entretien. L'endroit où on considère qu'il n'y a rien de valeur. Couloir séparé, entrée séparée, ascenseur séparé. On ne surtout pas qu'il nous voit. Et du coup, on vous verra pas. Il n'y a rien à craindre. Et puis, tu désactives les caméras. Si les caméras tombent en rade plus de 2 minutes, le commissariat est prévenu. Au bout de 2 minutes, les flics déboulent et ils mettent 3 minutes à arriver. 2 plus 2 plus 3. Vous avez 7 minutes pour pas vous faire gauler.
7 minutes pour pas vous faire gauler, hein. Vous avez toutes et tous entendu, c'est Lupin, bien sûr, Netflix 2023, avec Omar Sy. Bonjour Sophie German.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de joaillerie, de gémologie. Vous consacrez vos recherches aux joyaux de la couronne de France dans le cadre d'une thèse actuellement en cours à l'université de Neuchâtel, Fragments d'éternité, une histoire culturelle des joyaux de la couronne de France et de leur désacralisation par la République en 1887. On y est. On vous doit notamment une étude publiée dans la revue Techné en 2022 sur les couronnes impériales de Napoléon III et d'Eugénie. Alors, ce vol retentissant au Louvre, il a fait couler beaucoup de larmes de crocodile, de gens qui ne connaissaient pas en fait vraiment ce qui disparaissait. Vous, oui, c'est l'objet de votre recherche qui a été dérobé, ça fait quelque chose quand même.
Oui, alors ça a aussi fait couler quelques larmes chez moi, je ne vais pas vous le cacher.
Ce qui m'a interpellée, je dirais, c'est que j'ai remarqué à quel point on pouvait s'attacher à des objets qui ne nous appartiennent pas.
Oui, c'est ça. Bonjour Thomas Gisdael.
Bonjour Patrick Bouchon.
Vous êtes actuellement chargé des expositions et des projets muséographiques des musées de Grasse, après avoir été attaché de conservation du musée de la Légion d'honneur. Votre domaine d'étude concerne les arts du métal, de la joaillerie, et en particulier l'histoire de leur patrimonialisation depuis 1887, justement. Vous y participez vous-même, puisque vous avez rédigé l'inventaire des collections d'orfèvrerie du 19e siècle du mobilier national. Alors justement, au-delà de cette valeur d'identification, vous, ce qui vous intéresse aussi, et on n'en parle pas tant que ça, c'est la valeur artistique, c'est-à-dire effectivement la patrimonialisation comme art, un peu négligé, cette joaillerie du 19e siècle.
Et il n'est pas évident de considérer la place d'un joyau dans un musée d'art comme le Louvre, d'autant plus dans son sacro-saint qu'est cette galerie d'Apollon, ce lieu si important. Et une grande partie de mon travail, c'est essayer de les replacer dans l'histoire de l'art, dans l'historiographie du patrimoine aussi. Et c'est la place de ces joyaux au musée qui m'intéressait particulièrement.
C'est ça. Yann Potin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et archiviste, maître de conférences associé en histoire du droit à l'Université Paris-Nord. Et le droit, ça va être important dans ce qu'on va dire. Conservateur en chef aux Archives nationales, auteur d'une œuvre diverse et abondante dont le foyer constitue sans nul doute vos travaux de médiéviste sur le trésor royal, rassemblé dans un livre paru en 2020 aux éditions du CNRS sous le titre « Trésor écrit pouvoir, archives et bibliothèques d'État en France à la fin du Moyen-Âge ». Alors vous, pas de larmes, vous êtes un cœur sec.
Cœur sec. C'est pas une question de larmes, c'est d'ailleurs la larme, c'est un terme de joaillerie.
Oui.
Les diamants sont comme l'eau, hein, je parle sous le contrôle de mes collègues. Donc les larmes sont des larmes de diamants aussi, et les diamants coulent comme on sait.
Mais
comme
aussi yeux. le trésor. Vous êtes un historien du trésor, et le trésor, oui, par principe est inaliénable,
et en
mais
même
dans
temps,
les pratiques, il est dans la mobilité.
Comme d'ailleurs le mot trésorerie nous le fait savoir, encore aujourd'hui dans toutes nos pratiques, c'est à la fois quelque chose, c'est une caisse, un trésor qui se remplit et se vide, et qui est faite pour se vider et se remplir à la fois.
Et les rois l'ont beaucoup fait.
Et voilà, oui, en jouant sur justement un certain nombre d'ambiguïtés, d'abord celle de leur corps, de leur parure, et il faut quand même insister véritablement sur la particularité du mot joyau, sur,
oui,
lequel on va sans doute revenir.
On va y revenir, mais on commence par regarder. Alors tenez Sophie, je vous donne peut-être ce qui vous touche le plus, la broche reliquaire 1855. Si vous pouvez nous dire ce qu'on y voit.
Oui, alors on pourrait peut-être commencer par ses créateurs. Donc cette broche a été réalisée par la maison Babst. Je pense qu'elle a une importance toute particulière parce que les Babst sont les derniers joailliers de la couronne et Germain Babst est le premier à écrire l'histoire des joailliers de la couronne de France.
Oui, c'est le premier historien en fait.
Exactement. Donc c'est une broche qui se compose de 94 diamants, dont plusieurs qui ont appartenu à Louis XIV. Mmh. C'est un ensemble qui est articulé et symétrique et qui se divise en quatre éléments démontables, et il est inspiré d'un modèle du XVIIIe siècle. En haut, la broche, elle s'ouvre d'abord sur une rosace qui est formée de 7 diamants qui sont disposés autour d'un diamant solitaire qui est central. Et tous ces diamants sont montés à jour, donc ça permet à la lumière de traverser les pierres,
oui,
et d'en exalter l'éclat.
Et pourquoi on dit que c'est une broche reliquaire? Parce qu'en fait, ces pierres, elles viennent de loin, c'est ça?
Alors, ces pierres, oui, la plupart ont été taillées sous Louis XIV et sur l'épingle de fixation. Donc il y a le mot reliquaire qui a été gravé. Ça a beaucoup interrogé les historiens parce qu'elle ne contient pas de reliques. Mais comme c'est une broche démontable, on suppose que peut-être on voulait y insérer un élément permettant d'accueillir une relique. Et l'écrin est aussi très intéressant parce qu'il a une petite logette comme un petit tiroir où on suppose qu'on aurait pu y insérer une relique. Et Eugénie était très pieuse, donc...
Ah voilà.
Voilà. On pense que cette broche aurait effectivement pu servir de reliquaire.
Et oui, parce que tout ça, évidemment, on va en parler, Yann Potin, c'est le rapport entre la sacralité et la souveraineté. Mmh. Mais ça s'origine quand même dans une histoire qui, au départ, Thomas Gisdael, est l'histoire du 19e siècle et des impératrices. Quel objet vous voulez nous faire voir pour commencer?
Peut-être un des objets les plus importants de cette collection, qui n'est pas un joyau de la couronne proprement dit, qui est un joyau personnel et qui pourtant file à travers le 19e siècle sur les têtes de plusieurs souveraines. Hortense, Marie-Amélie, les princesses de la maison d'Orléans. Hortense qui est-ce? Eh bien Hortense, c'est la fille de Joséphine, Hortense de Beauharnais. Elle devient fille adoptive de Napoléon. Elle épouse un de ses frères, Louis, très éphémère roi de Hollande, tout éphémère tout comme son mariage avec Hortense. Et pourtant, comme toute princesse, elle doit paraître à la cour. On lui offre, sans doute sa mère, peut-être l'empereur lui-même, une parure, au moins un diadème. Ce diadème que nous avions sous les yeux, il n'est pas identifié clairement, son jeune orteur. Peut-être Nitto, ce grand joaillier de la couronne, Nitto père et fils, qui ont beaucoup travaillé pour Napoléon. Et très rapidement, une parure, donc un diadème, un collier, deux pendants d'oreilles, quelques petites broches à placer sur la poitrine. Et ce diadème, peut-être rapidement, qu'y a-t-il de si fascinant dans ce diadème? C'est la forme de son décor, ce sont de grands fleurons. De grands fleurons, on peut y voir des lys peut-être. Un diadème qui est resté intact tout au long de son histoire, réduit un petit peu, mais intact dans son décor. Des lys portés par des Bonaparte et passés aux Orléans.
Alors on voit effectivement qu'à seulement les décrire, eh bien surgissent des mots, collection personnelle, collection publique, couronne, joyaux, trésor. C'est de tout cela dont on doit parler. Écoutez justement ce reportage en 1968 de l'ORTF, ça va nous mettre sur la voie.
Il était une fois, en beau pays de France, un grand roi appelé François Ier, qui eut l'idée, en 1530, de rassembler des joyaux pour constituer le trésor de la couronne. Il possédait un merveilleux rubis, qui lui venait de la succession de sa femme Claude de France, fille de la duchesse Anne de Bretagne, et deux autres rubis, l'œuf de Naples et l'art romain, aujourd'hui disparus. En 1749, ce rubis, appelé la Côte de Bretagne, fut monté au centre de la décoration de la Toison d'Or pour Louis XV. Il fut pour cela taillé en forme de dragon, qu'il a gardé jusqu'à nos jours. Il pèse 105 carats. Il fut volé en 1792 par Cadet Guyot et emporté par le voleur à l'étranger, qui se décida à le vendre en 1796. Louis XVIII, alors en exil à Blankenberg, se l'appropria, se contentant d'offrir un dédommagement à l'intermédiaire. C'est ainsi que la Côte de Bretagne rejoignit la collection des joyaux de la couronne en 1814, où se trouvait déjà pieusement conservée l'épée du sacre des rois de France.
Voilà, Yann Potin, un condensé de l'histoire du trésor.
Donc, Alors, condensé particulièrement, qui mêle pas mal d'anachronismes et continuité factice, évidemment, entre l'Ancien Régime et le XIXe siècle, sur laquelle on reviendra. Mais revenons sur le début magnifique, sur cet acte de fondation de 1530, qui date en fait un inventaire. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordonnance qui institue les joyaux de la couronne. Et pour cause, puisqu'en fait, c'est d'une pratique très ancienne qui est issue. Ce qu'on croit être un inventaire, on sort à ce moment-là d'une période très importante qui est la captivité de François Ier, où le corps du roi, justement, devait être racheté. Et effectivement, dans la logique très métonymique, très symbolique de cette transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, au fond, le corps du roi doit être racheté aussi et d'abord par ses moyens propres, ses domaines, en plus des impôts, mais justement c'est quand même très problématique, et donc il doit faire des emprunts. Et dans une très vieille pratique, d'ailleurs au Trésor des Chartes, cet inventaire est conservé avec un autre, il a été rapproché très tardivement, celui de 1356, celui de Jean le Bon. Tiens, un autre captif, c'est étonnant, ça. Les deux seuls inventaires de joyaux dits de la couronne que nous avons sont liés à deux captivités. Nous n'avons pas le temps d'élaborer et de développer, mais
je vous
c'est un petit indice. Alors en effet, qu'est-ce qui va se passer? Très vite, en fait, François Ier, qui est l'auteur dans ses années de beaucoup de réformes financières, le trésor de l'épargne, la création des rentes de l'hôtel de ville, a besoin d'argent. Il essaye de se sortir de ce régime financier médiéval où le roi est contraint de soumettre aux états généraux tous les impôts extraordinaires. Donc il lui faut des réserves pour pouvoir éviter la caisse extraordinaire. Mmh. Et en effet, ces joyaux de la couronne sont bien, et c'est très important, le mot joyau, rappelons-le, vient de iocalia, c'est le même terme que joie, et c'est le même terme aussi que cadeau, c'est étrenne en fait, ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec le mot bijou. Oui. Les bijoux et les joyaux n'ont absolument rien à voir, y compris étymologiquement.
Joyau, en fait, ça désigne un usage, c'est un usage de circulation.
Ça désigne un usage, en tout cas étymologiquement, quand ça apparaît dans Chrétien de Troyes, les joyaux, c'est les choses qu'on offre.
Voilà.
Bon.
Donc c'est pour ça qu'un trésor, par définition, ça circule, ça se fond, et ça se reconstitue.
Exactement. À ce moment-là, la Chambre des comptes, et j'en termine vraiment par là, essaye justement de contrôler ces petites manœuvres financières, ces fonds secrets du roi. Elle essaye d'imposer un contrôle strict pour justement limiter les impôts et donc les révoltes. Et précisément, on a un événement fantastique 4 ans plus tard, en 1535. Justement, la Chambre des comptes enregistre dans ses registres un inventaire des joyaux, celui de 1533, qui déjà montre qu'il n'y a aucune inaliabilité, puisque c'est plus la même liste qu'en 1530. Bon. Eh bien, François Ier fait arracher la page du registre pour la mettre dans son trésor des chartes, qui devient du coup le trésor des trésors.
Et oui, parce que là, il y a.
Parce que la Chambre des comptes n'a pas le droit de regarder les joyaux de la couronne. Mmh. Et cependant, c'est quand même en jouant sur la fiction de la couronne, qui est devenue depuis la fin du XIVe siècle une fiction politique, c'est-à-dire l'incarnation de la souveraineté, le corps perpétuel du roi, et non pas son corps mortel, que notre histoire va se déployer dans un jeu perpétuel d'entrée et de sortie d'un ensemble de pierres précieuses qui est avant tout un fonds de garantie pour les emprunts du roi.
Et c'est ça qui, évidemment, est tout à fait frappant, Sophie Germann, c'est que, d'une certaine manière, le fonctionnement symbolique que nous a expliqué Yann Potin de ce trésor comme réserve de valeur, il doit être aussi donné à voir et à comprendre et à sentir par l'éclat, justement ce que vous appelez l'éternité. Mais c'est une fausse éternité, c'est justement une continuité qui est créée comme une impression politique.
Oui, complètement. Et je trouve que ce qui est fascinant aussi, c'est que pour moi, cette collection représente ce corps politique du roi. Si on peut peut-être faire référence à Ernst Kantorowicz sur la théorie des deux corps du roi. Ça part le corps physique du roi, mais ça part également le corps politique, spirituel du roi. Et pour moi, il y a cette notion de continuité à un niveau bien plus subtil que la simple matérialité, disons.
Et Thomas Gisdael, vous êtes évidemment plutôt historien du 19e siècle, de cette joaillerie du 19e siècle, qui cherche à se raccrocher un peu fictivement à cette histoire longue de l'anthropologie du corps princier.
Tout à fait. Jusqu'à la fin de la monarchie en France, les souverains se parent. Les souverains, je dis bien les souverains, hommes et femmes. Peut-être que le plus paré de tous nos souverains dans cette continuité symbolique un petit peu fictive dont a parlé Yann Potin, c'est Louis XIV. C'est Louis XIV qui révolutionne l'usage des diamants, l'usage politique des diamants. Cela tombe bien puisque sous son règne, la taille du diamant se perfectionne. On brille de plus en plus, de mille feux. Et il faut penser à ce trésor de parure comme celui de Louis XIV. Devant ses ambassadeurs, recevant les ambassadeurs à Versailles, dans la Galerie des Glaces.
Yann Potin.
Oui, en effet, je pense que tout ça converge vers une même question, c'est-à-dire ce jeu, cette frontière ténue entre le corps perpétuel, la couronne, y compris dans une forme de mise en abîme qu'on a entendue tout à l'heure, l'œuf de Naples. François Ier sort des guerres d'Italie, enfin il y est même en plein, il est en plein dans les guerres d'Italie, et puis revendique le domaine de Naples comme morceau de la couronne. Depuis les Viscontes, depuis même bien avant, les Anjou. Il y a aussi un autre joyau qui s'appelle le trésor de Gênes ou le je ne sais plus. Pareil, la seigneurie de Gênes. Donc il y a ce jeu permanent entre les joyaux qui seraient comme le précipité, c'est-à-dire les gemmes, des domaines du roi qu'il revendique et qui forment sa couronne abstraite et symbolique.
Oui, et voilà donc cette royauté qui est attaqué par la Révolution, et de cette Révolution, en règle générale, alors que c'est beaucoup plus compliqué, on ne retient que cet épisode.
C'est ici, dans cette pièce, en fait, que tout a commencé. C'est ici que sont entrés les bandits la nuit du 11 septembre 1792.
Voilà, pour réaliser ce qu'on a appelé d'une manière assez drôle le casse du millénaire, parce que si on accepte peut-être l'Antiquité, c'est un des vols les plus spectaculaires de l'histoire, non seulement de France, mais du monde. C'est un peu comme si aujourd'hui, au fond, des malfrats faisaient un casse dans le sous-sol de la Banque de France.
En pleine Révolution, le public pouvait venir, une fois par mois, admirer les trésors confisqués de la monarchie. Et une telle occasion de repérer les lieux n'a pas échappé à un certain Paul Miette.
Parce que Miette est venu avec le public pendant plusieurs fois en reconnaissance. Il a vu comment s'organise la pièce. Il sait évidemment comment sont les ouvertures.
C'est sur ce balcon qui donne aujourd'hui sur la place de la Concorde que nos voleurs ont opéré.
Donc voilà, une fois qu'ils ont réussi à fracturer ce carreau et ce volet, Ils sont entrés, comme nous, nous sortons, sur cet espace qui explique bien ce qui s'est passé. Hein, puisque vous avez la façade escaladée au niveau du rez-de-chaussée avec les gros bossages, la balustrade qu'on enjambe, et ensuite on est dans cet espace merveilleux sous la colonnade, donc une sorte de loggia, qui vous isole de la place assez rapidement avec le recul, vous voyez. Il n'y a pas de possibilité d'en bas de voir ce qui se passe en haut. Il fait nuit noire et ils vont pouvoir opérer très tranquillement, 4 fois de suite. C'est ça qui est incroyable.
Alors Alexandre, il y a quelque chose qui fait sourire dans cette histoire, c'est que finalement, nos voleurs, ils sont tellement à l'aise qu'ils vont passer quasiment une semaine à faire la fête ici, au milieu des diamants de la couronne.
Non seulement donc ils peuvent opérer tranquillement, casser les vitrines, les armoires fortes, les commodes, et on les voit ici au milieu des plus beaux joyaux d'une des plus grandes monarchies d'Europe, éclairés à la bougie, faire des sortes de gueuletons post-casse, tout à fait incroyables, au nez à la barre des autorités qui sont couvertes de ridicule dans cette affaire depuis le début, si vous voulez. Tout ça, c'est un fait divers incroyable, rendu possible, au fond, parce que, à ce moment-là, Paris, désorganisé par la Révolution française, est une sorte d'espace où tout est possible.
Visite privée de France 2 en 2016 au musée de la Marine, et l'Alexandre en question, c'est l'historien de l'architecture, Alexandre Gady. Sophie German, ces bijoux-là qui sont volés en 1792, on les a, certains ont été retrouvés, évidemment, la plupart d'ailleurs, donc ça fait partie de ces collections dont on parle.
Oui, complètement. Donc ici, on retrouve certains joyaux, dont le diamant bleu de Louis XIV en Angleterre, qui est retaillé. Aujourd'hui, on peut le voir aux États-Unis. Certains joyaux disparaîtront à jamais. Certains reviendront dans la collection quelques années plus tard. Donc ce que ça nous montre, c'est que c'est aussi une collection qui est vivante, oui, en perpétuel mouvement, avec des retours, des achats.
Et souvent, ce sont les rois qui les rachètent pour leur collection privée.
Oui, exactement, après les avoir mis en gage. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, qu'on ne retrouve pas avec d'autres collections d'objets d'art.
Et puis il y a quelque chose effectivement de technique là-dedans, Thomas Gisdael, vous y faisiez allusion, c'est la technique de la taille justement, et certains de ces diamants perdraient trop de valeur à être retaillés.
Dans le cas du vol, bien sûr, et à l'époque aussi, puisqu'au XVIIIe siècle, on traverse un grand moment pour les joyaux de la couronne, un grand moment de réforme. Louis XVI, contrairement à ce qu'on dit souvent, est un grand réformateur, et aidé par son intendant du garde-meuble, il décide, au cours de son règne, de faire retailler une grande partie des diamants de la couronne. Heureusement, les fonds lui manquent, et donc les diamants les plus anciens, notamment les Mazarins, les diamants légués à Louis XIV, ne sont pas retaillés sous son règne. Par contre, Louis XVI prend une décision au tout début de son règne qui est assez fondamentale et qui nous ramène à l'hôtel du garde-meuble et à ce vol de 1792. C'est celle de muséaliser, d'une certaine manière, avant la lettre, la collection Le Trésor Royal, en l'exposant une fois par mois de Pâques à novembre à partir de 1777.
Tous les lundis.
Tous les mardis.
Ah, je croyais que c'était
mois,
le mardi.
Un mardi lundi. Par mois, tout à fait, dans son hôtel du garde-meuble.
D'accord. Et ça, justement, Yann Potin, c'est intéressant pour ne pas ramener la Révolution seulement à ce casse du millénaire.
Tout à fait. Déjà, c'était du siècle, mais non, c'est du millénaire. Non, si on pouvait effectivement mettre cette histoire assez, comment dire, ridicule telle qu'elle est racontée, comme une sorte de façon, on l'a entendu dans le reportage, de ridiculiser une administration révolutionnaire qui est au contraire extrêmement rigoureuse sur la répartition juridique et financière de tous ces objets. Effectivement, leur localisation récente à l'hôtel du garde-meuble les a en quelque part fragilisés. Faut jamais oublier que de toute façon, tous ces collections jusque-là étaient dans des endroits secrets.
Oui, donc dès qu'elles sont exposées dans
forcément,
les sens du terme,
rentrent dans un espace public.
Vulnérable.
Quelque part, c'est Louis XVI le responsable. Mais surtout, sur quoi il faut insister, c'est qu'avant le 10 août 1792, depuis 1791, il y a une grande innovation qui va gouverner tout le 19e siècle, c'est le principe de la liste civile et de la dotation pour le roi et la reine et la famille royale. Certes, ça va s'interrompre pendant les années d'autonomie républicaine, hein, de 92 à 80, enfin même à 1804, et puis ça va revenir avec les Bonaparte. C'est très important, parce que justement, ça disjoint définitivement la couronne du corps du roi. La couronne, à ce moment, à partir de 1791, et nous n'en sommes jamais revenus depuis, c'est la souveraineté nationale.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de joyau de la couronne. Il n'y a plus de joyau de la couronne.
C'est-à-dire que la chose se déplace. Il y avait une ambiguïté entre le public et le privé. Là, c'est entre la fonction publique et la fonction privée du roi, qui est le premier fonctionnaire de l'État. D'accord, mais ce n'est pas la même chose qu'avant 1789, où le roi était à la fois l'État et l'incarnation de l'État, ce qui n'est pas la même chose.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
On écoute Diamonds de Rihanna en 2012 sur Allons-y voir sur France Culture, ben justement parce qu'on parle des joyaux de la couronne et qu'on cherche à en compliquer un peu l'histoire et à montrer que cette continuité factice entre la couronne et la France d'aujourd'hui, eh ben elle est construite historiquement. Et vous vouliez revenir, Sophie, sur justement cette question de la Révolution, hein, et qui n'est pas seulement ce fameux cambriolage, mais qui est effectivement le début de la muséification.
Oui, je pense que c'est un moment crucial dans l'histoire des Joyaux de la Couronne, parce qu'on parle beaucoup de la muséalisation sous la Troisième République, mais on oublie souvent de mentionner, à côté du vol du garde-meuble, que les joyaux étaient déjà muséalisés à ce moment-là, et que c'est finalement leur première exposition au public. Donc je pense que c'est un moment absolument charnière dans l'histoire de cette collection.
Maintenant, évidemment, Thomas Gisdael, ce qui nous réunit, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qui voilà, a disparu dans ce cambriolage du 19 octobre au Louvre, bah, sont essentiellement les bijoux et les couronnes et les diadèmes des impératrices. Donc c'est quand même le moment impérial, c'est essentiellement le moment napoléonien et Napoléon III.
Tout à fait. La collection du Louvre, telle qu'on la connaissait jusqu'au cambriolage du mois dernier, c'était une collection essentiellement impériale. Deux des trois vitrines étaient consacrées aux grands moments du Premier Empire au Second. Et les bijoux que nous avons vus disparaître font partie de ces trésors. Ils nous permettent de rappeler la distinction qu'on a déjà rapidement abordée, la distinction entre ces différents types de bijoux, puisque la collection du Louvre, ce n'est pas, il faut le dire et le répéter, ce n'est pas la collection des Joyaux de la Couronne.
Oui.
Les bijoux qui se trouvent au Louvre ont été agrégés au fur et à mesure par quelques générations de conservateurs, depuis la vente de 1887 sur laquelle on va revenir à l'instant, mais aussi depuis le milieu du XXe siècle à peu près, depuis l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, par des conservateurs qui ont voulu recomposer en quelque sorte une collection tout à fait imaginaire, tout à fait fictive, de pièces représentant les plus belles incarnations de la joaillerie française depuis principalement le XVIIIe siècle jusqu'à la fin du Second Empire.
Et d'ailleurs ces vitrines, on en a parlé pour le système de sécurité des vitres, mais on a oublié de les regarder, ce sont des vitrines Louis XV avec justement les symboles de la République. Donc là encore, il y a dans la muséographie du Louvre, il y a Potin, une continuité illusoire qui construit effectivement la perpétuité du trésor.
Voilà, une perpétuité qui d'ailleurs se mange elle-même, hein, avec cette idée effectivement de c'est un peu comme quand on expose des dépouilles. Il y a cette logique d'une certaine façon, parce que la désacralisation, comme l'a rappelé tout à l'heure Thomas, elle est en marche avant, au cours du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette désacralisation d'une partie des bijoux. Alors, au XIXe siècle, disons qu'il y a aussi un embourgeoisement de ces joailleries. Parce qu'au fond, ce qui est très frappant dans la manière dont Napoléon reconstitue une collection, qui va évidemment être remobilisée fortement, comme en Louis XVIII, il y a aussi une sorte de, quand je dis embourgeoisement, ça devient des bijoux de famille, ce qui n'était vraiment pas la logique, et surtout que les familles, il n'y en a aucune qui est vraiment la même, sauf peut-être entre Napoléon et Napoléon III, puisque ce sont toutes des familles concurrentes pour cette fameuse couronne qui n'existe plus,
oui,
en tant que principe politique. En revanche, ce qui est passionnant, c'est que c'est surtout Napoléon III, surtout à travers le musée des souverains, et là, ça, on est qu'il crée dans ces mêmes espaces, en partie de la colonnade du Louvre, met en scène fondamentalement, il y a je crois 70% des collections, il n'y a pas que des joyaux, qui ont apparti au souverain, qui relèvent à de Napoléon. Donc il y a bien cette idée de se légitimer dans, sur un plus un régime qui est resté tellement illégitime pendant 25 ans, n'en déplaise à nos historiens du Second Empire, et historiens du Second Empire, c'est un usurpateur, c'est un auteur de coups d'État, et qui en plus va faire, lui, chuter la France beaucoup plus que par un vol de joyaux, par la défaite de Sedan. Donc, bon, alors il se trouve que ce musée des souverains, justement, occupait la galerie d'Apollon, qui occupait elle-même d'ailleurs, petit clin d'œil à la semaine dernière de votre émission, le musée espagnol où Goya a fait ses débuts.
Bien sûr.
Donc, à preuve que tout ça est une reconstruction permanente par les conservateurs, puisqu'ils occupent des espaces qu'ils réinventent à chaque étape.
Et pendant ce temps-là, les trésors, ils continuent à circuler, ils continuent à être démembrés, ils continuent à être fondus, retaillés. Écoutez Didier Nectou, du musée de minéralogie à Paris, 2021.
Donc après avoir vu les gemmes, eh bien, je vous invite à voir d'autres pierres précieuses, et celle-là avec une portée historique, toujours l'histoire ici. Puisque je vous présente dans ces trois vitrines les topazes, les émeraudes, les améthystes qui font partie des joyaux de la couronne de France. Alors là, on peut s'étonner quand même de cette présence ici au musée de minéralogie. Que font les joyaux de la couronne de France au musée de minéralogie? D'abord, la plupart sont à la galerie d'Apollon, au musée du Louvre, et puis il y en a d'autres au muséum, et pourquoi ici? Alors c'est bien un morceau de l'histoire de France qu'il faut raconter. Parce qu'en fait, les joyaux de la couronne de France, en tant que tels, n'existent plus. Cette institution a été démantelée par la République en 1887. L'Assemblée vote la vente des joyaux de la couronne de France. C'est un acte éminemment politique, puisque ça signifie qu'on se sépare à jamais du symbole de la monarchie, des empereurs, des rois, c'est fini. Alors, ça pose quand même un problème parce que à cette époque-là, on met plus de 50 000 pièces sur le marché, les cours s'effondrent. Donc c'est pas une très très bonne affaire pour la France. Et puis, c'est pas une bonne affaire non plus en termes de patrimoine, parce que les joyaux de la couronne de France, c'est la France.
Eh oui. Et oui, Sophie Germain, c'est la France. Mais évidemment, c'est une France qui se méfie du pouvoir des joyaux et donc qui va les disperser ou les patrimonialiser. On va garder, par exemple, les couronnes des impératrices, mais pas de l'empereur Napoléon III. Tout ça, c'est le grand moment de 1887.
Oui, exactement. Et ce qu'on peut souligner et qui est très intéressant, je trouve, c'est que la République va jouer un peu un double jeu, c'est-à-dire qu'elle va muséaliser une partie des jeux de la couronne de France au Louvre, les objets ayant un intérêt artistique et historique, et d'autres joyaux, donc au musée de minéralogie et au muséum. Et donc, elle joue à la fois sur la mémoire et l'oubli, parce que au Louvre, les joyaux sont glorifiés, sont dans des vitrines qui glorifient la République, et dans les deux autres musées, on oublie que c'est des joyaux de la couronne. Donc ils rejoignent les collections, ils deviennent presque des échantillons, les pierres redeviennent des spécimens.
Double jeu, Thomas Gisdael, vous diriez ça ?
Double jeu, je dirais malaise. Je oui. crois que le mot qui se file depuis tout à l'heure, depuis le XVIIIe siècle, c'est celui du malaise d'un régime républicain.
Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ?
Face à ces insignes des souverainetés déchues, comme on a pu souvent le répéter au XIXe, que faire de ces reliques ? Yann Petain a parlé très justement du musée des souverains. Napoléon III avait inventé un musée de reliques. Ce sont des reliques jusqu'au mouchoir de Napoléon. Ce sont des objets qui sont éminemment impossible à patrimonialiser dans un régime républicain, positiviste, qui veut avancer dans l'histoire. Et ces joyaux, ce sont d'abord une masse monétaire. Et pour la République, le débat est évident. Le débat, d'ailleurs, s'était fait jour dès la proclamation de la Deuxième République. Il est naturellement réveillé après Sedan, après la chute tragique et déplorable du Second Empire. Et les chambres vont se faire l'écho de ces débats, évidemment. Et les défenseurs vont être très peu nombreux, finalement, en dehors des joailliers qui défendent, comme le disait Yann tout à l'heure, leur marché aussi, c'est évident, la qualité de leur art. Très peu de voix vont s'élever pour défendre ces joyaux. Et il est intéressant de voir que les joyaux qui ont été conservés, Sophie German parlait de joyaux d'art, ce sont en fait une portion extrêmement congrue de ces joyaux, et que dans les 10 années qui ont précédé la vente de 1887, la sélection de joyaux à conserver n'a fait que s'amenuiser, se réduire.
Et Yann Petain, là, on complète évidemment nos catégories anthropologiques. Il y a les joyaux, il y a les reliques, vous venez d'en parler, Thomas Gisdael. Et puis je dirais, il y a aussi les régaliens, mais là, il y a une autre confusion énorme. C'est-à-dire que les régaliens, c'est-à-dire les instruments de souveraineté, ils sont dans les trésors d'église, de toute façon.
À l'origine, ils étaient dans les trésors d'église, et ils ont été tôt muséalisés et en partie fondus, mais pour le coup, effectivement, je veux dire, ce qui était à Saint-Denis, ce qui était à Reims, globalement, a été conservé, le sceptre de Charles V, notamment, qui est dit de Charlemagne. À l'origine, ils étaient déposés dans des trésors d'église, ils ont été nationalisés quand les biens d'église ont été transférés à la nation, puis revendus. Donc il y a aussi cette muséalisation parallèle, mais si on revient sur la vente, qui est un long débat. D'abord, premièrement, il y a 51 000 diamants en 1886.
Il y a un long débat parce que tout le monde n'est pas d'accord. Hein.
Alors, oui, mais comme l'a dit Thomas, tout le monde n'est pas d'accord sur la destination. Tout le monde est d'accord ou presque sur la vente. Et c'est sur la destination. Parce qu'il y a deux choses sur la destination. C'est que, un, pendant tout le Second Empire, la maison de l'empereur est aussi la directrice des musées. Et ça, c'est la thèse d'Agnès Calu sur la réunion des musées nationaux qui montre parfaitement comment le vrai débat, c'est de savoir si la vente de ces joyaux doit aider à acquérir des œuvres d'art contemporaines ou plus anciennes, des vraies œuvres d'art, dans une forme de conversion sublime. Fini les joyaux anonymes, parce que, pardon, les 51 000 diamants, il y en a une dizaine qui sont connus, le reste, tous les autres, c'est des diamants, si j'ose dire, éternels peut-être, mais anonymes. Sur les 1000 améthystes anonymes. Donc, François Ier, rappelez-vous l'inventaire de 1530, il y a une dizaine de joyaux. C'est pas 51 000. Alors ceux-là, on a gardé leur nom. Le régent, on a gardé son nom. Mais les 51 000, eh ben oui, ils valent exactement 7 millions de francs or en 1887. En effet, comme l'a dit dans le reportage, sur le budget de l'État à l'époque, c'est combien ? 3 012 millions. Donc 0,2% du budget de l'État. Donc le débat, c'est sur la destination. Soit on pense d'abord, d'ailleurs, à financer les reconstructions de Paris. Et oui, on est en plein dans les années 1870, Paris a brûlé. Puis finalement, on pense aux Invalides de guerre. Le général Boulanger lance...
Et Jules Ferry aussi.
Et Jules Ferry.
C'est celui que j'essayais de...
Oui, oui, Jules Ferry. Tout le monde. Les Raspail, on a tous...
Il y a eu des... Un ou deux mots de
temps. Il y a un magnifique débat Mais en fait, finalement, la vraie destination partielle, parce que finalement les 6 millions, 7 millions vont être répartis, c'est la création de la Réunion des musées nationaux.
Voilà.
Comme fonds de dotation pour acquérir des œuvres d'art, et c'est en 1895.
Et donc, c'est bien une question aujourd'hui de pouvoir, et je pense que c'est le moment, pour le comprendre, d'ouvrir la carte postale de Mathieu Pot-Bonneville, le directeur du département culture et création du Centre Beaubourg.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, Ajnask Durbatuluk, Ajnask Gimbatul, Ajnask Trakatuluk, Ak Burzum Ishi Krimpatul. Voilà, je suis navré de proférer pareilles horreurs à une heure de grande écoute, mais il me semblait important pour la clarté de l'exposé de rappeler en langue originale l'inscription gravée sur la face interne de l'anneau unique. Inscription dont la traduction est mieux connue, je la rappelle. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Inscription révélée lorsque Gandalf le mage expose au feu, dans la trilogie de Tolkien, le bijou le plus célèbre de la littérature, depuis, disons, les ferrets de la reine. Il est intéressant d'ailleurs de constater comment la joaillerie souveraine convoque volontiers des collectifs, comment elle rameute les troupes. Ici, des mousquetaires, traversant le Channel afin de reprendre les bijoux imprudemment confiés par la reine au duc de Buckingham. Là, une communauté réunissant toutes les races de la terre du milieu pour aller précipiter l'anneau dans les entrailles brûlantes de la montagne du destin. Mais au fait, pourquoi un anneau et pas par exemple une couronne? Vous me direz, Patrick, que les hypothèses ne manquent pas. Le récit de Tolkien tresse ensemble des sources diverses. L'anneau, c'est un alliage où se fonde l'or du Rhin, comme lui retrouvé au fond d'une rivière, l'anneau du pêcheur, celui du pape, Tolkien n'a pas fait mystère de ses inspirations catholiques, l'anneau de Gigès aussi, qui au deuxième livre de la République de Platon possède comme lui le pouvoir de rendre invisible son porteur et de mettre à l'épreuve sa moralité. Des anneaux, il y en a donc beaucoup avant l'anneau unique. Vous me direz aussi qu'il y a bel et bien chez Tolkien par ailleurs une couronne, car le roman raconte aussi la geste du retour sur le trône du Gondor du roi légitime Aragorn, fils d'Arathorn. Je vous accorde tout cela. Mais ma question revient. Que change à la structure de ce conte le fait d'être polarisé par un anneau et non par une couronne? Mon hypothèse, c'est que ce choix inverse radicalement la relation que le récit entretient avec le pouvoir. Là où toute couronne pose nécessairement la question de savoir qui en héritera, s'en saisira, s'en coiffera, bref, comment l'avoir, tout le problème de l'anneau, c'est de ne pas l'avoir. Non seulement parce qu'il soumet celui qui s'en revêt, qu'il faut à ce titre le détruire, mais parce que toute tentation d'exercer le pouvoir qu'il contient doit être au prix de grands efforts surmontée, en repoussant surtout cette idée insidieuse qu'il serait possible de s'en servir à bon escient, du bon côté, pour mettre fin à la guerre. C'est ce que Gandalf et Galadriel parviennent à faire en deux passages clés du récit. Si vous ne savez pas qui est Galadriel, je ne peux rien pour vous. À cet égard, le titre choisi pour la récente série télévisée tirée de la saga, The Rings of Power, est problématique, parce qu'il faudrait bien plutôt parler d'anneaux de non-pouvoir. Et je serais assez tenté de décrire The Lord of the Rings comme une œuvre impolitique, où toute tentation de gouverner autrui s'avère profondément suspecte. Et pour reprendre mon parallèle, si chez Alexandre Dumas la joyeuse troupe des cadets de Gascogne met son humeur frondeuse au service d'une indéfectible obéissance au roi, chez Tolkien, la communauté de l'anneau, bien moins turbulente en apparence, place sa fidélité dans le couple formé par un petit bonhomme et son jardinier, que rien ne prédisposait à intervenir dans les affaires du monde. Vous l'aurez senti, Patrick, la couronne est un couvre-chef et je préfère ceux qui vont tête nue.
One ring to rule them all.
France Culture.
One ring to find them.
Allons-y voir.
One ring to bring them all and in the darkness bind them.
Patrick Boucheron.
Pas d'anneaux dans les bijoux dérobés le 19 octobre, Sophie Germain, mais des diadèmes, mais des couronnes, mais des colliers. Et toutes, c'est ça qui est important, puisqu'on a distingué entre les régalias, entre les joyaux de la couronne, toutes d'une collection personnelle des souverains.
Sauf quelques objets, dont la broche reliquaire.
Ah voilà, dont voilà. Vous nous parliez au début.
Exactement, le grand nœud de corsage ainsi que le diadème de perles. Mais il faut bien opérer cette distinction parce qu'on a parlé des bijoux, des joyaux de la couronne, comme s'ils appartenaient tous au même ensemble, mais ce n'est pas le cas. Donc certains objets provenaient des collections personnelles des souverains et ont été rachetés par le Louvre, comme l'a dit Thomas. Et certains objets, dont la broche reliquaire, est arrivée au Louvre en 1889 exactement et a été musée. Réalisé par la Troisième République.
Mais les autres assez récemment, hein, dans les années 1980, et avec justement du mécénat privé, Thomas Gisdael.
Essentiellement du mécénat privé, ce qui rend le vol encore plus tragique. Depuis 1951, première entrée, premier achat en fait onéreux d'un bijou, qui n'est pas un bijou français d'ailleurs, enfin pas directement, puisqu'il a été offert par Louis XV à un enfant de Parme, on revient à l'Italie, une plaque du Saint-Esprit, un joyau symbolique, un joyau d'ordre de chevalerie, quelque chose d'assez extraordinaire, jusqu'à 2025, puisque la dernière entrée a été permise par un don en 2025 d'un tout petit élément d'une ceinture de rubis de la duchesse d'Angoulême, là un joyau de la couronne proprement dit. Donc une histoire très complexe, très longue, et qui se résume peut-être le mieux, qui s'incarne le mieux dans un objet particulier, la couronne de l'impératrice Eugénie.
Ah, c'est 1855, tenez, je vous la donne.
En quelque sorte, merci.
Si je peux dire.
Bien sûr.
En tout cas, une photocopie, voilà.
Je l'aurais volontiers prise dans les mains, mais c'est un objet fascinant. Un objet qui est réalisé pour un moment politique particulier du Second Empire, l'exposition universelle de 1855. Elle est conçue pour l'impératrice Eugénie, par l'aumônier, un grand joaillier, avec le soutient l'apport des frères Fanières, de sculpteurs, qui réalisent ces aigles magnifiques, un petit peu bocassiens, si on me permet cette incursion dans le XXe siècle. La couronne de l'impératrice Eugénie, que lui est-il arrivé? Eh bien, elle n'a pas été vendue en 1887, elle a été rendue, restituée à l'impératrice Eugénie, puisque Eugénie, et c'est une discussion qui a été abondamment évoquée dans l'ouvrage d'Agnès Calu sur la création de la Réunion des musées nationaux, une thèse qui est passionnante pour son étude des diamants de la couronne d'Eugénie lui a été rendue à la suite de longs procès qui ont opposé Eugénie à la République pour la restitution de ce qui était son bien privé et par rapport aux dépenses faites sur la liste civile. Donc une couronne qui est entrée au Louvre en 1988 après avoir dormi pendant quelques décennies dans les coffres de la famille Bonaparte et de ses descendants, les comtes de Witt.
Vous connaissez toutes et tous Bonnie Banane, j'imagine. Elle chante en 2020 les bijoux de la reine, justement.
Les bijoux de la reine sont en partie cachés dans un endroit moderne, jamais révélé. Son déclin est un mystère, son œuvre inachevée. Elle n'avait plus de temps à perdre avant de déclarer: j'ai beaucoup de respect pour les arrêts. Pour les arrêter, c'est derrière mes oreilles que j'ai dû cacher les bijoux de la reine. Vous les appréciez.
Thomas Gisdael nous parlait de la couronne de l'impératrice Eugénie pour l'exposition universelle de 1855, mais l'empereur, Napoléon III, avait presque la même, non, Sophie Germain? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, exactement. Je pense que c'est une couronne qui a une importance toute particulière parce qu'elle témoigne de la couronne de Napoléon III qui a été fondue par la Troisième République. C'était la même couronne, mais un petit peu plus grande. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la couronne d'Eugénie est donc arrivée au Louvre, que celle de Napoléon III a été fondue, mais la Troisième République a récupéré les émeraudes, les a muséalisées à l'école des mines. Donc on voit là deux discours différents et que certains diamants ont été vendus aux enchères. Donc cette couronne a finalement exploré tout le spectre des possibles de la dispersion de la collection des joyaux.
Oui, ce qui prouve quand même, Yann Potin, que évidemment l'histoire du 19e siècle français, c'est l'histoire des révolutions mais aussi des restaurations, et qu'on se méfie de ces objets. Enfin, on ne veut pas qu'ils fonctionnent à nouveau.
Oui, parce que de toute façon, il faut d'abord, à chaque nouvelle restauration ou même changement de souverain, comme c'était le cas sous l'ancien régime, les mettre à la mode. Et là, on en revient aux fabricants et effectivement aux grandes maisons de joaillerie, celles qui subsistent encore dans le centre de Paris, qui perdent un de leurs meilleurs clients, pour pas dire leur principal client, qui en plus... Donc il y a des modes, et ces modes vont se reproduire dans l'aristocratie ou dans la bourgeoisie, puisque tout ça, il faut voir que c'est effectivement emblématique, pas simplement par les symboles, mais aussi par le caractère irrigant de ces pratiques. Donc c'est pour ça que ces cabochons, ces rties et ces pierres précieuses, tour à tour, peuvent être considérées comme des fossiles géologiques, ce qu'elles sont après tout, avant tout, comme des lieux de mémoire des corps du roi ou de la couronne, ou tout simplement comme des arts, des bijoux d'art industriel.
Mais sur leur usage politique possible, puisque Yann Potin n'a pas cherché une seconde à répondre à ma question, Thomas Gisdael, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir s'il y a d'autres exemples historiques ailleurs qu'en France, comment dire, à la fois de neutralisation ou d'exaltation de bijoux de la couronne quand on est justement passé en République.
Bien, comme souvent, la France a donné l'exemple, un exemple un peu catastrophique, et le continuateur le plus immédiat de la politique républicaine d'annihilation des joyaux de la couronne, c'est la Russie, la Russie soviétique, qui dès 1917 mesure l'intérêt commercial de l'ancien trésor des empereurs, des tsars de Russie, et décide de les vendre jusqu'en 1938. Ce sont des ventes très longues qui dispersent un héritage assez considérable, surtout remontant surtout au XVIIIe siècle, des bijoux de l'impératrice Catherine II, etc. Des pierres très importantes qui sont vendues. Un autre exemple qui, là, est plus intéressant, ce qui nous ramène au XXe siècle, c'est celui du Portugal, le Portugal qui perd sa monarchie en 1910 et qui décide assez rapidement, sous le régime de Salazar en particulier, de l'État nouveau, de reconstituer une sorte de trésor historique des joyaux de la couronne qui n'ont jamais existé en ce sens strict au Portugal, en royaume de Portugal, et qui sont recomposés par des acquisitions auprès des descendants de la famille de Bragance par l'État portugais à partir des années 45-50 et qui ont culminé en 2019 dans la réinauguration d'un musée des joyaux de la couronne à Lisbonne dans le palais d'Ayuda.
Et c'est pour ça évidemment que contrairement à ces autres exemples en France, justement parce qu'on est en République, on ne peut pas mettre des joyaux dans la Tour de Londres, qui est en même temps un coffre-fort et une prison. Écoutez ce reportage de Soir 3 en 1994.
La monarchie s'offre au public. Les joyaux de la couronne déménagent et quittent définitivement la Tour de Londres. Les deux couronnes serties de 6100 diamants, émeraudes et saphirs utilisés par Elisabeth II lors de son couronnement en 1953 seront transportées sous haute surveillance vers un musée des quartiers de Waterloo. Les bijoux seront exposés séparément dans des vitrines blindées. Le flot incessant des sujets de Sa Majesté, comme ceux des visiteurs du monde entier, pourra reprendre dès le 24 mars prochain. I wear,
bow down, the crown. France Culture. Bow down, the crown. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Voilà par contraste, Sophie Garman, ce qu'on peut comprendre de l'émotion factice, en partie, qui a été suscitée ou orchestrée après le vol du 19 octobre, par contraste avec cette situation anglaise. Justement, toute l'histoire complexe que vous nous avez décrite de la France et de son passé royal puis impérial par l'intermédiaire de ses joyaux montre que on n'est pas dans cette situation-là de continuité.
Oui, exactement. Je pense qu'en Angleterre, la situation a été peut-être un peu plus simple. Et c'est très intéressant de voir que les joyaux ont été muséalisés dès le XVIIe siècle, mais qui continuent d'être sortis des vitrines pour être utilisés durant les cérémonies. Donc ils ont encore leur fonction utilitaire.
Thomas Gisdael.
Le Louvre, comme souvent en France, a inventé une continuité fictive en réunissant couronnes, joyaux dans la galerie d'Apollon, dans une espèce de concentré de l'idée monarchique, très Louis XIVienne en fait, qui file une philosophie très ancienne, mais qui est tout à fait artificielle. Et c'est sans doute une particularité française que d'avoir voulu réunir ainsi les objets les plus évocateurs des anciens souverains, quitte à effacer un petit peu la précision de l'histoire.
Ça vous a étonné, Yann Potin, les réactions, justement, certaines outrées au vol du Louvre, comme si, justement, c'était l'identité de la France qui était attaquée.
Ça nous a tous étonnés, je crois. Bon, de la même façon qu'évidemment, la couronne d'Angleterre elle est sous contrôle, n'a jamais été absolue, ce qui explique pourquoi ça a toujours peut-être été plus simple, parce que ça a toujours été les gens du Parlement qui ont décidé où étaient les jouets de la couronne, jamais les rois eux-mêmes. Mais pour venir sur cette question, on oublie, je crois que ça a été très peu cité, j'aimerais qu'on en parle juste avant de nous quitter, c'est que le 16 décembre 1976, ça fait presque 50 ans, l'épée du sacre de Charles X, à peu près au même endroit, a été volée. Elle n'est jamais revenue. C'était une France qui n'était pas en train de tomber comme celle d'aujourd'hui, c'était une France giscardienne. Bon, certes, il y avait la crise du pétrole, mais bon, on était encore sûrs de nous-mêmes. Il y a eu des articles dans la presse, mais il n'y a pas eu ce discours...
Alors que c'était un instrument du sacre.
Donc, et c'était un instrument du sacre.
Et Charles X, c'est quand même le dernier roi.
Voilà. C'est le dernier vrai roi. Enfin, oui. je veux bien... voilà, en tout cas, c'est le dernier descendant de Saint-Louis sur le trône.
Et en plus, c'était un très bel objet.
C'était un très bel objet.
Thomas Gisdael, qui était serti de manière admirable.
Serti de manière admirable, à tel point que même la Troisième République n'avait pas osé le vendre.
Oui,
et tous les joailliers, Babs le premier, ont décidé que cet objet-là devait rester au Louvre. Et il faut quand même tempérer un petit peu notre vision très... très historienne de ces objets, et rappeler quand même que dans ces pierres, dans ces diamants, qui peuvent être anonymes, s'incarne quand même une histoire, un temps, des personnalités qui sont intéressantes, et rappeler de manière un petit peu détournée ce mot de Victor Hugo, peut-être, « Guerre aux démolisseurs, 1832 ». Chaque jour, un vieux souvenir de la France s'en va avec la pierre sur laquelle il était écrit. C'est ce qu'on a ressenti, je pense, le 19 octobre. C'est ce que nous avons vécu.
Alors écoutez, j'ai attendu jusqu'au dernier moment, mais je regarde la régie. Je pense que notre sociétaire définitivement coincé dans le métro ne viendra pas. Alors je vais m'improviser sociétaire. Enfin, chronique, c'est beaucoup dire. Mais enfin, essayer de faire comme les sociétaires font dans cette émission d'habitude, une sorte de pas de côté. Et peut-être vous parler de cette exposition qui ouvre dans les jours qui viennent au musée d'Aubray à Nantes. Et puis il y a un très beau catalogue qui en rencontre sous la direction de Yann Lignereux et Julie Pellegrin à cœurs ouverts aux presses universitaires de Rennes et musée d'Aubray. Pourquoi ? Parce que le cœur d'Anne de Bretagne, là encore, il y avait une émotion d'appartenance extraordinaire. Il a été volé au musée d'Aubray dans la nuit du 12 au 13 avril, je crois, de 2018, et puis retrouvé quelques jours plus tard. Il est revenu au musée, et on comprend d'ailleurs que les restitutions, c'en est une, pour le coup, s'accompagnent d'émotions et de festivités. Et là, la fête, c'est une fête de savoir, parce que l'exposition, elle rend compte de tout ce qu'on peut dire du rapport au cœur, du rapport à l'émotion, du rapport à la relique. Le cœur d'Anne de Bretagne, c'est un cardiotaphe, n'ayons pas peur des mots, qui était justement une très belle pièce d'orfèvrerie d'or. Et tout cela nous dit justement cet attachement tout politique, il est vrai, à ces objets de souveraineté. Mais c'est pas parce que l'attachement est politique qu'il n'est pas sincère.
Notre-Dame Cathedral in Paris is gripped by a raging fire. One of the most treasured cathedrals in Western Europe is ablaze. As it can be seen from all over Paris, it seems to have taken hold about an hour ago in the beams of the medieval cathedral, where €6 million worth of renovations were being undertaken.
Seen it before, it painted the perfect picture.
Crown par The Brooks 2020, ça aussi c'est bien. C'était Allons-y voir, merci à vous trois, Yann Potin, Sophie German et Thomas Gisdael. Les références de vos ouvrages et articles sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Jean-Guilain Meige, à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.